Des gens de lettres qui étaient pour moi des personnages considérables intriguaient pendant des années avant d'arriver à nouer avec Bergotte des relations qui restaient toujours obscurément littéraires et ne sortaient pas de son cabinet de travail. Alors que moi, je venais de m'installer parmi les amis du grand écrivain, d'emblée et tranquillement, comme quelqu'un qui, au lieu de faire la queue avec tout le monde pour avoir une mauvaise place, gagne les meilleurs ayant passé par un couloir fermé aux autres. Si Swann me l'avait ainsi ouvert, c'est sans doute parce que, comme un roi se trouve naturellement à inviter les amis de ses enfants dans la loge royale, sur le yacht royal, de même les parents de Gilberte recevaient les amis de leur fille au milieu des choses précieuses qu'ils possédaient, et des intimités plus précieuses encore qui y étaient encadrées. Mais à cette époque, je pensais, et peut-être avec raison, que cette amabilité de Swann était indirectement à l'adresse de mes parents. J'avais cru entendre autrefois à Combray qu'il leur avait offert, voyant mon admiration pour Bergotte, de m'emmener dîner chez lui, et que mes parents avaient refusé, disant que j'étais trop jeune et trop nerveux pour sortir. Sans doute mes parents représentaient-ils pour certaines personnes, justement celles qui me semblaient le plus merveilleuses, quelque chose de tout autre qu'à moi, de sorte que, comme au temps où la dame en rose avait adressé à mon père des éloges dont il s'était montré si peu digne, j'aurais souhaité que mes parents comprissent quel inestimable présent je venais de recevoir et témoignassent leur reconnaissance à ce Swann généreux et courtois qui me l'avait ou le leur avait offert sans avoir plus l'air de s'apercevoir de sa valeur que ne fait dans la fresque de Luini le charmant roi mage au nez busqué, aux cheveux blonds et avec lequel on lui avait trouvé autrefois, paraît-il, une grande ressemblance. Malheureusement, cette faveur que m'avait faite Swann et que, en rentrant, avant même d'ôter mon pardessus, j'annonçais à mes parents, avec l'espoir qu'elle éveillerait dans leur cœur un sentiment aussi ému que le mien et les déterminerait envers les Swann à quelque politesse énorme et décisive, cette faveur ne parut pas très appréciée par eux. « Swann t'a présenté à Bergotte ?» « Excellente connaissance, charmante relation !» s'écria ironiquement mon père. « Il ne manquait plus que cela !» Hélas, quand j'eus ajouté qu'il ne goûtait pas du tout monsieur de Norpois. « Naturellement !» reprit-il. « Cela prouve bien que c'est un esprit faux et malveillant, mon pauvre fils. Tu n'avais déjà pas beaucoup de sens commun. Je suis désolé de te voir tomber dans un milieu qui va achever de te détraquer. » Déjà, ma simple fréquentation chez les Swann avait été loin d'enchanter mes parents. La présentation à Bergotte leur apparut comme une conséquence néfaste, mais naturelle, d'une première faute, de la faiblesse qu'ils avaient eue et que mon grand-père eût appelée à un manque de circonspection. Je sentis que je n'avais plus pour compléter leur mauvaise humeur qu'à dire que cet homme pervers, et qui n'appréciait pas M. de Norpois, m'avait trouvé extrêmement intelligent. Quand mon père, en effet, trouvait qu'une personne, un de mes camarades par exemple, était dans une mauvaise voie, comme moi en ce moment, si celui-là avait alors l'approbation de quelqu'un que mon père n'estimait pas, il voyait dans ce suffrage la confirmation de son fâcheux diagnostic. Le mal ne lui en apparaissait que plus grand. Je l'entendais déjà qui allait s'écrier « Nécessairement, c'est tout un ensemble !» mot qui m'épouvantait par l'imprécision et l'immensité des réformes dont il semblait annoncer l'imminente introduction dans ma si douce vie. Mais comme, n'eussais-je pas raconté ce que Bergotte avait dit de moi, rien ne pouvait plus quand même effacer l'impression qu'avaient éprouvée mes parents, qu'elle fût encore un peu plus mauvaise, n'avait pas grande importance. D'ailleurs, il me semblait si injuste, tellement dans l'erreur, que non seulement je n'avais pas l'espoir, mais presque pas le désir de les ramener à une vue plus équitable. Pourtant, sentant, au moment où les mots sortaient de ma bouche, comme ils allaient être effrayés de penser que j'avais plu à quelqu'un qui trouvait les hommes intelligents bêtes, était l'objet du mépris des honnêtes gens et duquel la louange en me paraissant enviable m'encouragerait au mal, ce fut à voix basse et d'un air un peu honteux que, achevant mon récit, je jetai le bouquet.
Il a dit au Swann qu'il m'avait trouvé extrêmement intelligent.
Comme un chien empoisonné qui, dans un champ, se jette sans le savoir sur l'herbe qui est précisément l'antidote de la toxine qu'il a absorbée, je venais, sans m'en douter, de dire la seule parole qui fut au monde capable de vaincre chez mes parents ce préjugé à l'égard de Bergotte, préjugé contre lequel tous les plus beaux raisonnements que j'aurais pu faire, tous les éloges que je lui aurais décernés, seraient demeurés vains. Au même instant, la situation changea de face. « Ah ! Il a dit qu'il te trouvait intelligent !» dit ma mère. « Cela me fait plaisir parce que c'est un homme de talent. »« Comment ? Il a dit cela ?» reprit mon père. « Je ne nie en rien sa valeur littéraire devant laquelle tout le monde s'incline. Seulement c'est ennuyeux qu'il ait cette existence peu honorable dont a parlé à mot couvert le père Norpois. » ajouta-t-il sans s'apercevoir que, devant la vertu souveraine des mots magiques que je venais de prononcer, la dépravation des mœurs de Bergotte ne pouvait guère lutter plus longtemps que la fausseté de son jugement. « Oh, mon ami !» interrompit maman. « Rien ne prouve que ce soit vrai. On dit tant de choses. D'ailleurs, M. de Norpois est tout ce qu'il y a de plus gentil, mais il n'est pas toujours très bienveillant, surtout pour les gens qui ne sont pas de son bord. » C'est vrai, je l'avais aussi remarqué, répondit mon père. Et puis enfin, il sera beaucoup pardonné à Bergotte puisqu'il a trouvé mon petit enfant gentil, reprit maman tout en caressant avec ses doigts mes cheveux et en attachant sur moi un long regard rêveur. Ma mère d'ailleurs n'avait pas attendu ce verdict de Bergotte pour me dire que je pouvais inviter Gilberte à goûter quand j'aurais des amis. Mais je n'osais pas le faire pour deux raisons. La première est que chez Gilberte, on ne servait jamais que du thé. À la maison, au contraire, maman tenait à ce qu'à côté du thé, il y eût du chocolat. J'avais peur que Gilberte ne trouvât cela commun et n'en conçût un grand mépris pour nous. L'autre raison fut une difficulté de protocole que je ne pus jamais réussir à lever. Quand j'arrivais chez Madame Swann, elle me demandait « Comment va Madame votre mère ?» J'avais fait quelques ouvertures à maman pour savoir si elle ferait de même quand viendrait Gilberte, point qui me semblait plus grave qu'à la cour de Louis XIV, le Monseigneur. Mais maman ne voulut rien entendre. « Mais non, puisque je ne connais pas Madame Swann. »« Mais elle ne te connaît pas davantage. »« Je ne te dis pas, mais nous ne sommes pas obligés de faire exactement de même en tout. Moi, je ferai d'autres amabilités à Gilberte que Madame Swann n'aura pas pour toi. » Mais je ne fus pas convaincue et préférais ne pas inviter Gilberte. Ayant quitté mes parents, j'allai changer de vêtements et en vidant mes poches, je trouvai tout à coup l'enveloppe que m'avait remise le maître d'hôtel des Swann avant de m'introduire au salon. J'étais seule maintenant. Je l'ouvris. À l'intérieur était une carte sur laquelle on m'indiquait la dame à qui je devais offrir le bras pour aller à table. Ce fut vers cette époque que Bloch bouleversa ma conception du monde, ouvrit pour moi des possibilités nouvelles de bonheur, qui devaient du reste se changer plus tard en possibilités de souffrance, en m'assurant que, contrairement à ce que je croyais au temps de mes promenades du côté de mes églises, les femmes ne demandaient jamais mieux que de faire l'amour. Il compléta ce service en m'en rendant un second que je ne devais apprécier que beaucoup plus tard. Ce fut lui qui me conduisit pour la première fois dans une maison de passe. Il m'avait bien dit qu'il y avait beaucoup de jolies femmes qu'on peut posséder, mais je leur attribuais une figure vague que les maisons de passe devaient me permettre de remplacer par des visages particuliers. De sorte que si j'avais à Bloch, pour sa bonne nouvelle, que le bonheur, la possession de la beauté ne sont pas choses inaccessibles et que nous avons fait œuvre inutile en y renonçant à jamais, une obligation de même genre qu'à tel médecin ou tel philosophe optimiste qui nous fait espérer la longévité dans ce monde, et de ne pas être entièrement séparé de lui quand on aura passé dans un autre, les maisons de rendez-vous que je fréquentais quelques années plus tard, en me fournissant des échantillons du bonheur, en me permettant d'ajouter à la beauté des femmes cet élément que nous ne pouvons inventer, qui n'est pas que le résumé des beautés anciennes, le présent vraiment divin, le seul que nous ne puissions recevoir de nous-mêmes, devant lequel expirent toutes les créations logiques de notre intelligence et que nous ne pouvons demander qu'à la réalité, un charme individuel, méritèrent d'être classés par moi à côté de ces autres bienfaiteurs d'origine plus récente mais d'utilité analogue, avant lesquels nous imaginions sans ardeur la séduction de Mantegna, de Wagner, de Sienne, d'après d'autres peintres, d'autres musiciens, d'autres villes, les éditions d'histoire de la peinture illustrée, les concerts symphoniques et les études sur les villes d'art. Mais la maison où Bloch me conduisit et où il n'allait plus d'ailleurs lui-même depuis longtemps était d'un rang trop inférieur, le personnel était trop médiocre et trop peu renouvelé pour que j'y pusse satisfaire d'anciennes curiosités ou en contracter de nouvelles. La patronne de cette maison ne connaissait aucune des femmes qu'on lui demandait et en proposait toujours dont on n'aurait pas voulu. Elle m'en vantait surtout une dont, avec un sourire plein de promesses, comme si ça avait été une rareté et un régal, elle disait « C'est une juive, ça ne vous dit rien ?» C'est sans doute à cause de cela qu'elle l'appelait Rachel. Et avec une exaltation niaise et factice, qu'elle espérait être communicative et qui finissait sur un râle presque de jouissance, « Pensez donc, mon petit, une juive, il me semble que ça doit être affolant, ah !» Cette Rachel que j'aperçus sans qu'elle me vît était brune, pas jolie, mais avait l'air intelligent et, non sans passer un bout de langue sur ses lèvres, souriait d'un air plein d'impertinence au michet qu'on lui présentait et que j'entendais entamer la conversation avec elle. Son mince et étroit visage était entouré de cheveux noirs et frisés, irréguliers comme s'ils avaient été indiqués par des hachures dans un lavis à l'encre de Chine. Chaque fois je promettais à la patronne, qui me la proposait avec une insistance particulière, en vantant sa grande intelligence et son instruction, que je ne manquerais pas un jour de venir tout exprès pour faire la connaissance de Rachel, surnommée par moi Rachel Camp du Seigneur. Mais le premier soir, j'avais entendu celle-ci, au moment où elle s'en allait, dire à la patronne « Alors c'est entendu, demain je suis libre. Si vous avez quelqu'un, vous n'oublierez pas de me faire chercher. » Et ces mots m'avaient empêché de voir en elle une personne, parce qu'il me l'avait fait classer immédiatement dans une catégorie générale de femmes dont l'habitude commune à toutes était de venir là le soir voir s'il n'y avait pas un louis ou deux à gagner. Elle variait seulement la forme de sa phrase en disant « Si vous avez besoin de moi » ou « Si vous avez besoin de quelqu'un ». La patronne, qui ne connaissait pas l'opéra d'Halévy, ignorait pourquoi j'avais pris l'habitude de dire « Rachel Camp du Seigneur ». Mais ne pas la comprendre n'a jamais fait trouver une plaisanterie moins drôle. Et c'est chaque fois, en riant de tout son cœur, qu'elle me disait « Alors, ce n'est pas encore pour ce soir que je vous unis à Rachel Camp du Seigneur ?» Comment dites-vous cela ? Rachel Camp du Seigneur. Ah, ça, c'est très bien trouvé. Je vais vous fiancer. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Une fois, je faillis me décider. Mais elle était sous presse. Une autre fois, entre les mains du coiffeur. Un vieux monsieur qui ne faisait rien d'autre aux femmes que verser de l'huile sur leurs cheveux déroulés et les peignir ensuite. Et je me lassais d'attendre, bien que quelques habitués fort humbles, soi-disant ouvrières, mais toujours sans travail, fussent venus me faire de la tisane et tenir avec moi une longue conversation à laquelle, malgré le sérieux des sujets traités, la nudité partielle ou complète de mes interlocutrices donnait une savoureuse simplicité. Je cessais du reste d'aller dans cette maison parce que, désireux de témoigner mes bons sentiments à la femme qui la tenait et avait besoin de meubles, je lui en donnais quelques-uns, notamment un grand canapé que j'avais hérité de ma tante Léonie. Je ne les voyais jamais, car le manque de place avait empêché mes parents de les laisser rentrer chez nous, et ils étaient entassés dans un hangar. Mais dès que je les retrouvais dans la maison où ces femmes se servaient d'eux, toutes les vertus qu'on respirait dans la chambre de ma tante à Combray m'apparurent suppliciées par le contact cruel auquel je les avais livrées sans défense. J'aurais fait violer une morte que je n'aurais pas souffert davantage. Je ne retournais plus chez l'entremetteuse, car il me semblait vivre et me supplier, comme ces objets en apparence inanimés d'un conte persan, dans lesquels sont enfermées des âmes qui subissent un martyre et implorent leur délivrance. D'ailleurs, comme notre mémoire ne nous présente pas d'habitude nos souvenirs dans leur suite chronologique, mais comme un reflet où l'ordre des parties est renversé, Je me rappelais seulement beaucoup plus tard que c'était sur ce même canapé que, bien des années auparavant, j'avais connu pour la première fois les plaisirs de l'amour avec une de mes petites cousines avec qui je ne savais où me mettre, et qui m'avait donné le conseil assez dangereux de profiter d'une heure où ma tante Léonie était levée. Toute une autre partie des meubles et surtout une magnifique argenterie ancienne de ma tante Léonie, je les vendis, malgré l'avis contraire de mes parents, pour pouvoir disposer de plus d'argent et envoyer plus de fleurs à Madame Swann, qui me disait en recevant d'immenses corbeilles d'orchidées « Si j'étais monsieur votre père, je vous ferais donner un conseil judiciaire. Comment pouvais-je supposer qu'un jour je pourrais regretter tout particulièrement cette argenterie et placer certains plaisirs plus haut que celui, qui deviendrait peut-être absolument nul, de faire des politesses aux parents de Gilberte ? C'est de même en vue de Gilberte et pour ne pas la quitter que j'avais décidé de ne pas entrer dans les ambassades. Ce n'est jamais qu'à cause d'un état d'esprit qui n'est pas destiné à durer qu'on prend des résolutions définitives. J'imaginais à peine que cette substance étrange qui résidait en Gilberte et rayonnait en ses parents, en sa maison, me rendant indifférent à tout le reste, cette substance pourrait être libérée, émigrée dans un autre être. Vraiment la même substance, et pourtant devant avoir sur moi de tout autres effets, car la même maladie évolue, et un délicieux poison n'est plus toléré de même quand, avec les années, a diminué la résistance du cœur. Mes parents, cependant, auraient souhaité que l'intelligence que Bergotte m'avait reconnue se manifestât par quelque travail remarquable. Quand je ne connaissais pas les Swann, je croyais que j'étais empêchée de travailler par l'état d'agitation où me mettait l'impossibilité de voir librement Gilberte. Mais quand leur demeure me fut ouverte, à peine je m'étais assis à mon bureau de travail que je me levais et courais chez eux. Et une fois que je les avais quittés et que j'étais rentrée à la maison, mon isolement n'était qu'apparent, ma pensée ne pouvait plus remonter le courant du flux de paroles par lequel je m'étais laissé machinalement entraîner pendant des heures. Seul, je continuais à fabriquer les propos qui eussent été capables de plaire aux Swann, et, pour donner plus d'intérêt au jeu, je tenais la place de ses partenaires absents. Je me posais à moi-même des questions fictives, choisies de telle façon que mes traits brillants ne leur servissent que d'heureuses reparties. Silencieux, cet exercice était pourtant une conversation, et non une méditation. Ma solitude, une vie de salon mental où c'était non ma propre personne, mais des interlocuteurs imaginaires qui gouvernaient mes paroles, et où j'éprouvais à former au lieu des pensées que je croyais vraies, celles qui me venaient sans peine, sans régression du dehors vers le dedans, ce genre de plaisir tout passif que trouve à rester tranquille quelqu'un qui est alourdi par une mauvaise digestion. Si j'avais été moins décidée à me mettre définitivement au travail, j'aurais peut-être fait un effort pour commencer tout de suite. Mais puisque ma résolution était formelle et qu'avant 24 heures, dans les cadres vides de la journée du lendemain où tout se plaçait si bien parce que je n'y étais pas encore, mes bonnes dispositions se réaliseraient aisément. Il valait mieux ne pas choisir un soir où j'étais mal disposée pour un début auquel les jours suivants, hélas, ne devaient pas se montrer plus propices. Mais j'étais raisonnable. De la part de qui avait attendu des années, il eût été puéril de ne pas supporter un retard de 3 jours. Certain que le surlendemain j'aurais déjà écrit quelques pages, je ne disais plus un seul mot à mes parents de ma décision. J'aimais mieux patienter quelques heures et apporter à ma grand-mère, consolée et convaincue, de l'ouvrage en train. Malheureusement, le lendemain n'était pas cette journée extérieure et vaste que j'avais attendue dans la fièvre. Quand il était fini, ma paresse et ma lutte pénible contre certains obstacles internes avaient simplement duré 24 heures de plus, et au bout de quelques jours, mes plans n'ayant pas été réalisés, je n'avais plus le même espoir qu'ils le seraient immédiatement, partant plus autant de courage pour subordonner tout à cette réalisation. Je recommençai à veiller, n'ayant plus pour m'obliger à me coucher de bonne heure un soir la vision certaine de voir l'œuvre commencer le lendemain matin. Il me fallait, avant de reprendre mon élan, quelques jours de détente. Et la seule fois où ma grand-mère osa d'un ton doux et désenchanté formuler ce reproche « Eh bien, ce travail, on n'en parle même plus ?» Je lui en voulus, persuadée que, n'ayant pas su voir que mon parti était irrévocablement pris, Elle venait d'en ajourner encore, et pour longtemps peut-être, l'exécution, par l'énervement que son déni de justice me causait, et sous l'empire duquel je ne voudrais pas commencer mon œuvre. Elle sentit que son scepticisme venait de heurter à l'aveugle une volonté. Elle s'en excusa, me dit en m'embrassant, « Pardon, je ne dirai plus rien. » Et pour que je ne me décourageasse pas, m'assura que du jour où je serais bien portant, le travail viendrait tout seul par surcroît. D'ailleurs, me disais-je, en passant ma vie chez les Swann, ne fais-je pas comme Bergotte? À mes parents, il semblait presque que, tout en étant paresseux, je menais, puisque c'était dans le même salon qu'un grand écrivain, la vie la plus favorable au talent. Et pourtant, que quelqu'un puisse être dispensé de faire ce talent soi-même, par le dedans, et le reçoive d'autrui, est aussi impossible que se faire une bonne santé, malgré qu'on manque à toutes les règles de l'hygiène et qu'on commette les pires excès, rien qu'en dînant souvent en ville avec un médecin. La personne du reste qui était le plus complètement dupe de l'illusion qui m'abusait ainsi que mes parents, c'était Madame Swann. Quand je lui disais que je ne pouvais pas venir, qu'il fallait que je restasse à travailler, elle avait l'air de trouver que je faisais bien des embarras, qu'il y avait un peu de sottise et de prétention dans mes paroles. « Mais Bergotte vient bien, lui. Est-ce que vous trouvez que ce qu'il a écrit n'est pas bien ?»« Cela sera même mieux bientôt, » ajoutait-elle, « car il est plus aigu, plus concentré dans le journal que dans le livre où il délaie un peu. J'ai obtenu qu'il fasse désormais le leader article dans Le Figaro. Ce sera tout à fait « the right man in the right place. » Et elle ajoutait, « Venez, il vous dira mieux que personne ce qu'il faut faire. » Et c'était... comme on invite un engagé volontaire avec son colonel, c'était dans l'intérêt de ma carrière, et comme si les chefs-d'œuvre se faisaient par relation, qu'elle me disait de ne pas manquer de venir le lendemain dîner chez elle avec Bergotte. Ainsi, pas plus du côté des Swann que du côté de mes parents, c'est-à-dire de ceux qui, à des moments différents, avaient semblé devoir y mettre obstacle, aucune opposition n'était plus faite à cette douce vie où je pouvais voir Gilberte comme je voulais, avec ravissement, sinon avec calme. Il ne peut pas y en avoir dans l'amour, puisque ce qu'on a obtenu n'est jamais qu'un nouveau point de départ pour désirer davantage. Tant que je n'avais pu aller chez elle, les yeux fixés vers cet inaccessible bonheur, je ne pouvais même pas imaginer les causes nouvelles de troubles qui m'y attendaient. Une fois la résistance de ses parents brisée, et le problème enfin résolu, il recommença à se poser chaque fois dans d'autres termes. En ce sens, c'était bien en effet chaque jour une nouvelle amitié qui commençait. Chaque soir, en rentrant, je me rendais compte que j'avais à dire à Gilberte des choses capitales, desquelles notre amitié dépendait, et ces choses n'étaient jamais les mêmes. Mais enfin, j'étais heureux et aucune menace ne s'élevait plus contre mon bonheur. Il allait en venir, hélas, d'un côté où je n'avais jamais aperçu aucun péril, du côté de Gilberte et de moi-même. J'aurais pourtant dû être tourmentée par ce qui au contraire me rassurait, par ce que je croyais du bonheur. C'est dans l'amour un état anormal, capable de donner tout de suite à l'accident le plus simple en apparence et qui peut toujours survenir, une gravité que par lui-même cet accident ne comporterait pas. Ce qui rend si heureux, c'est la présence dans le cœur de quelque chose d'instable qu'on s'arrange perpétuellement à maintenir et dont on ne s'aperçoit presque plus tant qu'il n'est pas déplacé. En réalité, dans l'amour, il y a une souffrance permanente que la joie neutralise, rend virtuelle, ajourne, mais qui peut à tout moment devenir ce qu'elle serait depuis longtemps si l'on n'avait pas obtenu ce qu'on souhaitait. Atroce. Plusieurs fois, je sentis que Gilberte désirait éloigner mes visites. Il est vrai que quand je tenais trop à la voir, je n'avais qu'à me faire inviter par ses parents, qui étaient de plus en plus persuadés de mon excellente influence sur elle. Grâce à eux, pensais-je, mon amour ne court aucun risque. Du moment que je les ai pour moi, je peux être tranquille, puisqu'ils ont toute autorité sur Gilberte. Malheureusement, à certains signes d'impatience que celle-ci laissait échapper quand son père me faisait venir en quelque sorte malgré elle, je me demandais si ce que j'avais considéré comme une protection pour mon bonheur n'était pas au contraire la raison secrète pour laquelle il ne pourrait durer. La dernière fois que je vins voir Gilberte, il pleuvait. Elle était invitée à une leçon de danse chez des gens qu'elle connaissait trop peu pour pouvoir m'emmener avec elle. J'avais pris à cause de l'humidité plus de caféine que d'habitude. Peut-être à cause du mauvais temps, peut-être ayant quelques préventions contre la maison où cette matinée devait avoir lieu, Madame Swann, au moment où sa fille allait partir, la rappela avec une extrême vivacité. « Gilberte !» et me désigna pour signifier que j'étais venue pour la voir et qu'elle devait rester avec moi. Ce « Gilberte » avait été prononcé, crié plutôt, dans une bonne intention pour moi, mais au haussement d'épaules que fit Gilberte en ôtant ses affaires, je compris que sa mère avait involontairement accéléré l'évolution, peut-être jusque-là possible encore à arrêter, qui détachait peu à peu de moi mon amie. « On n'est pas obligé d'aller danser tous les jours, » dit Odette à sa fille avec une sagesse sans doute apprise autrefois de Swann. Puis, redevenant Odette, elle se mit à parler anglais à sa fille. Aussitôt, ce fut comme si un mur m'avait caché une partie de la vie de Gilberte, comme si un génie malfaisant avait emmené loin de moi mon amie. Dans une langue que nous avons substitué à l'opacité des sons la transparence des idées, mais une langue que nous ne savons pas est un palais clos dans lequel celle que nous aimons peut nous tromper sans que, restés au dehors et désespérément crispés dans notre impuissance, nous parvenions à rien voir, à rien empêcher. Telle, cette conversation en anglais dont je n'eusse que souri un mois auparavant et au milieu de laquelle quelques noms propres français ne laissaient pas d'accroître et d'orienter mes inquiétudes, avait, tenue à deux pas de moi par deux personnes immobiles, la même cruauté, me faisait aussi délaisser seule qu'un enlèvement. Enfin, Madame Swann nous quitta. Ce jour-là, peut-être par rancune contre moi, cause involontaire qu'elle n'alla pas s'amuser, peut-être aussi parce que, la devinant fâchée, j'avais préventivement plus froid que d'habitude, le visage de Gilberte, dépouillé de toute joie, nu, saccagé, sembla tout l'après-midi vouer un regret mélancolique au pas de quatre que ma présence l'empêchait d'aller danser et défier toutes les créatures, à commencer par moi, de comprendre les raisons subtiles qui avaient déterminé chez elle une inclination sentimentale pour le Boston. Elle se borna à échanger, par moments, avec moi sur le temps qu'il faisait, la recrudescence de la pluie, l'avance de la pendule, une conversation ponctuée de silence et de monosyllabes où je m'entêtais moi-même avec une sorte de rage désespérée à détruire les instants que nous aurions pu donner à l'amitié et au bonheur. Et à tous nos propos, une sorte de dureté suprême était conférée par le paroxysme de leur insignifiance paradoxale, lequel me consolait pourtant car il empêchait Gilberte d'être dupe de la banalité de mes réflexions et de l'indifférence de mon accent. C'est en vain que je disais « Il me semble que l'autre jour la pendule retardait plutôt. » Elle traduisait évidemment « Comme vous êtes méchante. » J'avais beau m'obstiner à prolonger, tout le long de ce jour pluvieux, ces paroles sans éclaircie, je savais que ma froideur n'était pas quelque chose d'aussi définitivement figé que je le feignais, et que Gilberte devait bien sentir que si, après le lui avoir déjà dit trois fois, je m'étais hasardé une quatrième à lui répéter que les jours diminuaient, j'aurais eu de la peine à me retenir de fondre en larmes. Quand elle était ainsi, quand un sourire ne remplissait pas ses yeux et ne découvrait pas son visage, on ne peut dire de quelle désolante monotonie étaient empreints ses yeux tristes et ses traits maussades. Sa figure, devenue presque laide, ressemblait alors à ces plages ennuyeuses où la mer, retirée très loin, vous fatigue d'un reflet toujours pareil que cerne un horizon immuable et borné. À la fin, ne voyant pas se produire de la part de Gilberte le changement heureux que j'attendais depuis plusieurs heures, je lui dis qu'elle n'était pas gentille. « C'est vous qui n'êtes pas gentille, » me répondit-elle. « Mais si !» Je me demandais ce que j'avais fait, et ne le trouvant pas, le lui demandais à elle-même. « Naturellement, vous vous trouvez gentille, » me dit-elle en riant longuement. Alors je sentis ce qu'il y avait de douloureux pour moi à ne pouvoir atteindre cet autre plan, plus insaisissable de sa pensée que décrivait son rire. Ce rire avait l'air de signifier « Non, non, je ne me laisse pas prendre à tout ce que vous me dites. Je sais que vous êtes fou de moi, mais cela ne me fait ni chaud ni froid, car je me fiche de vous. » Mais je me disais qu'après tout, le rire n'est pas un langage assez déterminé pour que je puisse être assurée de bien comprendre celui-là. Et les paroles de Gilberte étaient affectueuses. « Mais en quoi ne suis-je pas gentille ? » lui demandai-je. « Dites-le-moi, je ferai tout ce que vous voudrez. » « Non, cela ne servirait à rien, je ne peux pas vous expliquer. » Un instant, j'eus peur qu'elle crût que je ne l'aimasse pas, et ce fut pour moi une autre souffrance, non moins vive, mais qui réclamait une dialectique différente. « Si vous saviez le chagrin que vous me faites, vous me le diriez. » Mais ce chagrin qui, si elle avait douté de mon amour, eût dû la réjouir, l'irrita au contraire. Alors, comprenant mon erreur, décidée à ne plus tenir compte de ses paroles, la laissant sans la croire me dire « Je vous aimais vraiment. Vous verrez cela un jour. » Ce jour où les coupables assurent que leur innocence sera reconnue et qui, pour des raisons mystérieuses, n'est jamais celui où on les interroge. J'eus le courage de prendre subitement la résolution de ne plus la voir, et sans le lui annoncer encore, parce qu'elle ne m'aurait pas cru.